mort sur le drap. Et s'il meurt dans notre chambre, sans qu'il vous paie, où elle va ton âme si tu meurs dans la chambre de quelqu'un d'autre en pays étranger? Comment va faire la sienne pour rentrer chez elle? Jésus, ponctua Juan Diego. Laisse Jésus où il est. C'est nous qui sommes responsables de lui. Qu'est-ce qu'on fait s'il meurt? On le brûlera sur le Basurero. Rivera nous aidera. Et son âme partira en fumée. Il n'en pensait pas un mot, mais il voulait que Lupe se couche. Bon, d'accord. Maintenant, on sait quoi faire. Quand elle se glissa dans le lit de Juan Diego, Lupe était plus vêtue que d'ordinaire. Elle expliqua que c'était par pudeur parce que le hippie était dans leur chambre. Elle voulut que Juan Diego dorme du côté du jeune homme pour ne pas sursauter à la vue du Christ en sang si elle se réveillait. « J'espère que tu vas mettre l'histoire au point, » dit-elle à son frère en lui tournant le dos dans son lit étroit. « Personne ne va croire que ce tatouage s'est gravé par miracle. » Juan Diego passa la moitié de la nuit à échafauder la présentation du dit miracle, et au moment où il allait s'endormir enfin, il s'aperçut que Lupe n'avait pas fermé l'œil non plus. « Je voudrais bien me marier avec lui, s'il sentait moins mauvais et s'il arrêtait de chanter cette chanson de cow-boy, » lui dit-elle. « T'as 13 ans, » lui rappela Juan Diego. Dans sa stupeur mescalisée, le brave gringo s'en tenait aux deux premiers vers de la chanson en question, et comme ils étaient de moins en moins audibles, les gamins de la décharge en arrivaient presque à espérer qu'ils chantent la suite. Un jour que je marchais dans les rues de Laredo, un jour que je marchais dans Laredo. « Tu as 13 ans, Lupe, » répéta Juan Diego avec plus d'insistance. « Plus tard, je veux dire, quand je serai plus grande, enfin, si j'y arrive. Mes seins commencent à pousser, mais ils sont tout petits. Je sais qu'il faudrait qu'ils grossissent. Comment ça, si tu y arrives ?» Ils étaient couchés dans le noir, dos à dos, mais il la sentit hausser les épaules. « Je crois pas qu'on fera de vieux os, le gringo et moi. Mais qu'est-ce que t'en sais ?» Je sais que mes seins grossissent pas. » Juan Diego demeura éveillé encore un moment, à méditer ses paroles. Lupe se trompait rarement sur le passé. Et il sombra dans le sommeil avec l'idée à moitié rassurante qu'elle était moins fiable quant à l'avenir. Chapitre 13. Maintenant et à jamais. Il n'y eut rien de rationnel ni de posé dans l'arrivée fracassante au Shangri-La de leur hôte de marque, puisque telle était la formule ronflante qui désignait Juan Guerrero à la réception. Ah, ce Clark French, l'ancien élève de l'écrivain, n'avait pas manqué cette occasion de se mettre en avant. La chambre avait reçu des aménagements, des prestations spéciales, dont l'une, inhabituelle, serait offerte. Et on avait bien recommandé à la direction de ne pas dire que M. Guerrero était mexicano-américain. Pourtant, à en juger par l'accueil musclé qu'il avait reçu sitôt le portail franchi, on n'aurait pas imaginé que le directeur de l'hôtel, toujours tiré à quatre épingles, était venu lui-même à la réception un peu plus tôt pour conférer au malheureux Juan Diego épuisé un statut de célébrité. Hélas, Clark n'était pas sur place pour accueillir son professeur. Tout d'abord, Bienvenido découvrit dans le rétroviseur que son estimé client s'était endormi. Il tenta donc d'écarter d'un geste le portier qui se précipitait pour ouvrir la porte arrière de la limousine contre laquelle il était affalé. Sortant précipitamment par la sienne, le chauffeur s'élança ensuite vers le hall en agitant les deux bras. Qui aurait pu savoir que ces gesticulations perturberaient les chiens renifleurs? Ils se jetèrent sur Bienvenido, qui leva les mains en l'air comme si les vigiles étaient en train de le braquer. Et lorsque le portier vint lui ouvrir, Juan Diego, si profondément assoupi qu'on l'aurait cru mort, glissa peu à peu vers le sol. Ce mort qui dégringolait mit un comble à l'excitation des chiens. Ils bondirent sur la banquette arrière, leurs laisses et leurs harnais échappant aux mains des vigiles. La ceinture de sécurité empêcha Juan Diego de tomber complètement de la voiture. Il fut réveillé en sursaut, sa tête cognant contre la portière. Il avait sur les genoux un chien qui lui léchait le visage. C'était un chien de taille moyenne, un petit labrador ou une chienne. En réalité, un croisé labrador, avec des oreilles molles et douces, des yeux affectueux, écartés de la truffe. « Béatrice !» s'exclama Juan Diego. On devine de quoi il était en train de rêver. Mais à l'entendre prononcer ce nom féminin, le chien, qui était un mâle et se nommait James, fut tout déconcerté. Quant au portier qui entendit le prévenu mort crier « Béatrice », il se mit à hurler. Manifestement, les chiens renifleurs avaient tendance à devenir agressifs quand on criait autour d'eux. Le dénommé James, qui s'était installé sur les genoux de Juan Diego, voulut protéger celui-ci en montrant les dents au portier. Or, Juan Diego n'avait pas remarqué l'autre chien assis à côté de lui. Il s'agissait d'un de ces chiens à l'allure nerveuse, oreilles dressées aux aguets, pelage rêche et hirsute. Ce n'était pas un berger allemand pure race, il était croisé. Et quand il se mit à pousser des aboiements féroces dans son oreille, l'écrivain dut le prendre pour un chien des toits et penser que certains d'entre eux étaient bel et bien des fantômes, comme le croyait Loupé. Le corneau avait un œil mort d'un jaune verdâtre et qui n'était pas en phase avec son œil valide. Cet œil de travers accrédita pour Juan Diego l'hypothèse que l'animal frémissant à côté de lui était bien un spectre. Il détacha sa ceinture de sécurité et tenta une sortie, entreprise délicate avec James sur les genoux. Les deux chiens promenaient maintenant leurs truffes dans le voisinage immédiat de l'entrejambe de Juan Diego. L'immobilisant contre son siège, il s'était mis en devoir de le renifler avec passion. Or, comme ils étaient dressés à repérer les bombes, leur attitude attira l'attention des vigiles. « On ne bouge plus !» intima l'un d'entre eux, sans qu'on puisse déterminer si cette injonction s'adressait au chien ou à Juan Diego. « Les chiens m'adorent !» annonça fièrement l'écrivain. « Il faut dire que j'étais un gosse de la décharge, ou niño de la basura. » Les deux vigiles avaient les yeux rivés sur la chaussure orthopédique de cet homme qui leur faisait l'effet d'un déséquilibré et tenait des propos incohérents. « Ma sœur et moi, on veillait comme on pouvait sur les chiens du basurero, et quand ils mouraient, on s'arrangeait pour les brûler avant que les vautours les trouvent. « On ne bouge pas !» ordonna le même vigile, intrigué par l'angle bizarre de la chaussure adaptée quand Juan Diego posa son pied à terre. Au ton de sa voix et au doigt qui désignait le passager, il n'était plus question de se méprendre sur le destinataire de cette injonction. Juan Diego s'immobilisa à mi-sortie. Qui aurait pu savoir que les chiens renifleurs n'aimaient pas voir les humains se figer de façon insolite? James et le croisé de bergers allemands, truffes inventoriant la zone du bassin de Juan Diego, et plus précisément la poche de sa veste contenant le morceau de muffin enveloppé dans la serviette en papier, se raidirent aussitôt. Juan Diego tentait de se remémorer un attentat récent. À Mindanao, l'île la plus au sud des Philippines, la plus proche de l'Indonésie. N'y avait-il pas eu un kamikaze portant des explosifs fixés à sa jambe? Or, avant l'explosion, tout le monde avait bien remarqué que l'homme boitait. « Ça se présente mal », pensait Benvenido. Abandonnant le sac de voyage monstrueux aux mains du portier Froussard, encore mal remis de ses émotions après avoir vu Juan Diego revenir à la vie en criant un nom de femme, le jeune chauffeur se présenta à la réception où il expliqua qu'on malmenait leur hôte de marque. « Rappelez vos chiens mal dressés, vos vigiles sont sur le point de tirer sur un écrivain infirme !» Lorsque le malentendu fut dissipé, Juan Diego se préoccupa surtout du sort des chiens. « Il ne faut pas leur en vouloir, » dit-il au directeur de l'hôtel. « Ils n'ont rien à se reprocher. Promettez-moi qu'ils ne seront pas maltraités. »« Maltraités ? Non, monsieur, on ne les maltraite jamais. » Il était peu probable que les chiens aient déjà trouvé un tel avocat au Shangri-La. Le directeur tint à escorter Juan Diego dans sa chambre. Les prestations de l'hôtel comprenaient un panier de fruits et la traditionnelle assiette de biscuits et de fromage. Les quatre bouteilles de bière qui remplaçaient le classique champagne dans le seau à glace étaient une attention de son ancien élève, qui savait que son maître bien-aimé ne buvait rien d'autre. Clark French, lecteur inconditionnel de Juan Diego, était plus connu à Manille comme un écrivain américain marié à une Philippine. Juan Diego comprit au premier coup d'œil qu'il était à l'initiative de l'installation d'un aquarium géant dans sa chambre, car il aimait faire à son ancien professeur des cadeaux qui étaient d'autant d'allusions à des morceaux de bravoure de ses romans. Or, dans une œuvre de jeunesse, un roman que presque personne n'avait lu, l'écrivain avait doté son protagoniste d'une malformation du canal urinaire. Sa petite amie avait un énorme aquarium dans sa chambre, et les couleurs et les sons de ce biotope si exotique avaient un effet déstabilisant sur l'homme dont l'urètre était une voie étroite et sinueuse.